Bounaziwa, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, un peu plus si vous écoutez notre podcast, je vais vous raconter l'histoire d'une radio née il y a 30 ans en Roumanie. Elle porte aujourd'hui le nom de RFI Romania.
On ne sait pas encore si cette information est vraie, mais si elle l'est, c'est une grande victoire pour le peuple. Nicolae et Elena Ceaușescu ont été arrêtés à Târgoviște.
Décembre 1989, un coup d'État met fin au régime communiste de Roumanie. Le dictateur Nicolae Ceaușescu et son épouse sont condamnés à mort et fusillés le jour de Noël. En quelques jours et au prix de plusieurs centaines de morts dans des manifestations réprimées, notamment à Timișoara et à Bucarest, la Roumanie vient de vivre une révolution. Les images font le tour du monde via la télévision.
Nous sommes là pour la démocratie, pour la liberté, pas pour la richesse ou des choses comme ça. Tu sais, nous sommes ici pour notre futur.
Dans les mois qui suivent, c'est l'effervescence dans le pays. On s'active pour construire une nouvelle Roumanie, bâtir une société plus ouverte sur l'Europe et sur le monde. Tout ou presque est à faire. À l'Université Polytechnique de Bucarest, une poignée d'étudiants encadrés par quelques professeurs de la faculté d'électronique ont un projet concret, lancer une radio. Déjà, ils souhaitent le faire avec Radio France Internationale. Parmi eux, un étudiant en quatrième année nommé Cornel Ion. Il avait alors 20 ans. Pendant la période communiste, il écoutait clandestinement en ondes courtes les radios étrangères comme Radio Free Europe, la BBC, la Deutsche Welle ou encore RFI. Comme d'autres, la Radio Mondiale diffusait alors déjà depuis l'étranger des programmes en langue roumaine. Sous l'oppression, les Roumains étaient tout de même bien informés grâce à ces radios étrangères. Ils y entendaient ce qu'ils ne pouvaient pas trouver sur les médias d'État roumains. C'est ce que m'explique Cornel Ion.
Pendant l'époque communiste, tous les médias étaient contrôlés. Et puis, RFI était un modèle pour tout le monde, en particulier pour nous. Et c'était une fenêtre ouverte vers le monde. C'était une fenêtre derrière le rideau de fer. Mais je me souviens très bien que j'écoutais RFI aussi, j'écoutais Europe Libre aussi, une radio qui parlait de ce qui se passe derrière le rideau de fer. Donc c'était ça qu'on cherchait, une information différente de ce que le média communiste contrôlé par l'État nous mettait à notre disposition. On n'est pas oublié que dans les dernières années de la période communiste, même les chaînes publiques de télévision diffusaient 2 heures par jour de programme.
Pendant l'été 1990, Cornel et ses camarades transforment des chambres du campus étudiant de Léou pour installer les locaux de leur radio. Le partenariat avec Radio France Internationale se concrétise avec l'arrivée de matériel, mais aussi des formations dispensées par des journalistes et des techniciens venus de Paris. Le 1er décembre 1990, une première émission test est entendue sur le 93.5 FM à Bucarest. Radio Delta était née.
Dragi ascultători, suntem Radio Delta cu emisiuni pe frecvența de 93,5 MHz și difuzăm zilnic de luni până vineri programe stereofonice experimentale între orele 11 și 13.
Le 1er janvier 1991, à 8h du matin, Radio Delta diffuse sa première émission matinale. Un rendez-vous majeur pour une radio puisque c'est l'heure où l'écoute est la plus importante. Cornel Ion, devenu entre-temps directeur de la rédaction, se souvient que la bande FM commençait tout doucement à se remplir en Roumanie. Un vent de liberté soufflait sur les ondes.
On était le 4e radio indépendante quelques mois après la chute du communisme. C'était d'abord Radio Nova qui a commencé à émettre, Radio Nova et Radio Contact et Fan Radio. Et Radio Nova qui était un projet roumain, des artistes roumains et aussi des gens comme moi qui cherchaient d'inventer la radio, d'inventer la démocratie.
De plus en plus de jeunes s'intéressent à Radio Delta. Luca Niculescu, 21 ans, vient frapper à la porte et obtient un stage en tant que journaliste.
C'était une cité U. Et la radio avait quelques chambres, quelques pièces de cette cité U au 11e étage. La rédaction n'était pas très grande, imaginez-vous une pièce d'étudiant qui doit faire 15 mètres carrés peut-être tout au plus. Mais où il y avait quelques bureaux et dans les autres pièces il y avait encore une petite partie de la rédaction et puis 2 studios, l'un, un studio d'enregistrement et un studio du direct. C'était une atmosphère à la fois, je vais dire, détendue et professionnelle. parce qu'il y avait un esprit étudiant, effectivement, mais en même temps, comme on était formé par des collègues qui venaient de RFI, de Paris, qui étaient de grands professionnels, on apprenait vite les bons réflexes de journalisme. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de Radio Delta. Mais en même temps, il y avait cette ambiance détendue d'étudiants, parce que on pouvait passer le jour, mais aussi la nuit. Il y avait des émissions la nuit, il y avait des collègues qui les faisaient, des émissions musicales. On restait les écouter, on venait avec des idées, on échangeait. Et en plus, c'était au début des années 90, où vous imaginez un pays qui sortait du communisme, pendant près d'un demi-siècle de censure, de pas de parole libre, de pas de liberté d'expression. Et tout d'un coup, on pouvait dire des choses et il y avait un frémissement extraordinaire dans les médias. Et on était très content de pouvoir participer à cette création de la nouvelle Roumanie par les émissions qu'on faisait.
Un extraordinaire esprit de radio libre flotte à Radio Delta. C'est plus qu'une radio qu'on construit, un espace de créativité et de débat d'idées. Luca Nicolescu, qui m'a confié ses souvenirs il y a quelques jours à Paris, a débuté sa longue carrière de journaliste en franchissant une porte en métal au fond d'un couloir au 11e étage d'une tour de l'Institut Polytechnique de Bucarest. Petit à petit, il allait gravir tous les échelons jusqu'à devenir rédacteur en chef.
L'atelier des médias.
La programmation de Radio Delta, tant éditoriale que musicale, est déjà bilingue et biculturelle. Dès les premières semaines de 1991, l'antenne est en roumain de 8h à midi et de 17h à 20h, soit 7h par jour. Le reste est le signal en français repris de RFI Monde. Petit à petit, la radio s'installe, prend ses marques, mise sur l'information. En 94, fraîchement sortie d'une école d'ingénieurs, Ina Doumitrache rejoint la radio. Celle qui est aujourd'hui directrice adjointe de la station tente alors de prendre en main les questions de communication, de marketing. Elle essaye de vendre de la publicité.
Je suis arrivée à Delta par accident. Je ne savais rien sur la radio. La première pensée, c'était que ça sera une expérience, un nouveau défi dans cette période que tout le monde attendait des changements. J'ai commencé comme agent commercial. Alors, j'ai vendu deux pubs sur l'antenne d'un radio qui avait pas de sondage, qui avait pas d'historique, et en plus qui était en radio bilingue. C'était pas simple de leur expliquer comment ça se passe avec un radio bilingue. Mais avec la confiance que c'était un bon produit, j'ai commencé à vendre des publicités sur les antennes de Delta. Je pense que tout le monde était intéressé d'avoir un peu d'ouverture vers l'Europe. Et je pense que c'était ça le plus important argument qui était intéressant pour eux.
Radio Delta poursuit sa structuration pas à pas. Elle accueille en stage des étudiants de la faculté de journalisme de Bucarest. Ses membres deviennent des professionnels du journalisme, de l'animation, de la programmation musicale ou encore de la technique. Ce qui ne va d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes. Régulièrement, des membres de l'équipe sont débauchés par des FM concurrentes à des salaires souvent plus élevés. Nouvelle étape en décembre 98. Radio Delta devient une filiale à 100% de Radio France Internationale et prend le nom de Radio Delta RFI. Les programmes sont de plus en plus basés sur une interactivité entre la rédaction de Delta RFI, ses correspondants à travers le monde, et la rédaction parisienne de RFI. En 2006, nouvelle étape. Radio Delta RFI devient RFI Romania, son nom actuel, et intègre totalement RFI. 2006, c'est aussi l'année où Bucarest accueille la 11e édition du sommet de la francophonie. Mais un des moments forts dans l'histoire de RFI Romania, c'est le 1er janvier 2007.
Je suis vraiment très heureux de célébrer aujourd'hui avec vous l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne le 1er janvier 2007.
Les journaux et programmes de RFI Romania célèbrent l'adhésion si longtemps espérée au bloc communautaire. Cornalion.
Si je ne devais choisir qu'un seul moment clé de cette période de 30 ans susceptible de démontrer que le progrès social et historique existe, je prendrais le 1er janvier 2007 lorsque la Roumanie a rejoint l'Union européenne. C'était un peu notre bataille dès le début de la radio. Donc je me rappelle très très bien la période quand on a était plein d'effervescence pour soutenir ce projet, pour refléter ce projet sur notre antenne.
En décembre 2020, la Roumanie célèbre 30 ans de liberté, mais il reste au moins un mal résiduel dans le pays. La corruption, qu'RFI Romania traite avec sérieux. Les questions de la liberté de la presse ne semblent pas être un souci majeur pour la radio. Luca Niculescu, ancien rédacteur en chef, se souvient.
Quand tu es rédacteur en chef, tu peux recevoir un coup de fil de quelqu'un qui n'est pas content de la façon dont il a été traité. Mais encore une fois, pendant plus de 20 ans de travail, je ne peux pas dire qu'une fois on nous a empêchés de travailler, c'était... Bon, c'est sûr, c'était peut-être plus compliqué dans les années 90. Et puis il y a eu des moments où nos interviews, nos prises de position parfois pouvaient déranger. Mais ça s'est toujours passé, je dirais, sans pression extrême, et de toute façon je faisais en sorte pour que la pression n'arrive pas sur mes collègues journalistes pour qu'ils puissent exercer leur métier en toute tranquillité et sérénité. Je pense que RFI Roumanie a toujours fait du bon travail, du travail honnête.
La Roumanie est 48e au dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Je cite RSF. Malgré de nombreux changements politiques à la tête de l'État, la situation de la liberté de la presse ne s'est pas améliorée. La vision du journalisme et de la liberté d'expression par le pouvoir encourage toujours autant la censure et l'autocensure. Cornel Ion, directeur de RFI Romania, replace les choses dans leur contexte.
La Roumanie occupe, comme vous disiez, la 48e place, trois positions derrière les États-Unis, mais devant les voisins comme la Hongrie et la Bulgarie. C'est vrai, la presse traverse des moments difficiles au niveau mondial, je peux dire. La pandémie du coronavirus révèle les tendances répressives existantes dans le monde, des pays qui limitent la liberté de la presse, affirmant qu'ils combattent en fait les fausses nouvelles. L'extrême droite et les nationalistes ont directement menacé les journalistes et intensifient leurs activités dans des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Pour la Roumanie, la situation est également difficile en raison des problèmes financiers. De nombreuses rédactions dépendent de la publicité. Les coûts de production augmentent, les rédactions locales sont moins nombreuses et ne font pas face à la concentration des médias nationaux entre les mains de quelques personnes. Mais la Roumanie, n'oubliez pas, a commencé à bâtir sa démocratie avec un énorme handicap et il lui a fallu un certain temps pour assimiler les pratiques démocratiques.
Luca Niculescu, devenu ambassadeur de Roumanie en France en janvier 2016, est lui optimiste.
Quand je vois les nouveaux médias qui apparaissent en Roumanie, des médias indépendants, très actifs, qui sont souvent sur des supports Internet, je suis optimiste quant à la liberté de la presse en Roumanie. Je ne peux pas dire que, encore une fois, là, je parle à titre personnel, pas comme ambassadeur de Roumanie en France, mais je vois qu'il y a une diversité des points de vue que je peux regarder ici sur Internet, et on peut s'exprimer sur tous les sujets en toute liberté.
Cornel Ion confirme.
Rien n'est tabou, à mon humble avis. Il existe des sujets et des non-sujets selon leur pertinence pour les auditeurs. Les sujets délicats ne doivent pas être niés, mais ils ne doivent pas non plus être traités de manière simpliste. Il faut savoir les aborder avec délicatesse. Par exemple, quand on parle dans une de nos émissions qui s'appelle « Jeunes en Europe » de minorités sexuelles ou de discrimination, je n'ai pas l'impression de choquer notre public. On répond à un besoin. Je trouve d'ailleurs très intéressante l'évolution de cette émission que je viens de citer, qui avait du mal à trouver des invités il y a 10 ou 15 ans. Et maintenant, on nous appelle et on nous dit qu'il faut parler de ces questions, qu'il faut discuter des sujets sensibles.
RFI. Fin 2020, 30 ans après sa création, RFI Romania est dotée d'une équipe de 25 personnes à Bucarest, deux journalistes à Paris et d'un réseau de correspondants dans le monde. Ils proposent ensemble 13 heures de programme chaque jour en langue roumaine. RFI Romania a grandi en même temps que la démocratie roumaine s'est structurée. Ceux qui ont développé l'antenne de cette radio, comme Cornel Ion et Luca Niculescu, se réjouissent du chemin parcouru.
J'ai eu la chance de travailler pendant 3 décennies pour RFI et je peux dire que c'est la radio qui m'a formé professionnellement et c'est l'endroit où j'ai appris ce que signifie un radio de qualité. RFI Roumanie est reconnue pour son objectivité, son sérieux et ses valeurs européennes. D'une manière ou d'une autre, grâce à la qualité des programmes et à sa parfaite indépendance, RFI Roumanie, c'est plus qu'une marque synonyme de journaliste de qualité et d'analyse pertinente, mais aussi représente également une école crédible de la démocratie.
RFI Roumanie, c'est une radio qui a accompagné la Roumanie dans sa transition démocratique et a été un témoin de cette transition. Et encore une fois, on se réjouit du chemin parcouru et par la Roumanie et par RFI Roumanie 30 ans plus tard.
RFI Roumania est maintenant une radio de référence dans le paysage médiatique roumain. Vous arrive-t-il de l'écouter depuis Paris? Et qu'en pensez-vous?
Honnêtement, je la lis plutôt que je ne l'écoute maintenant, mais j'écoute de temps en temps des émissions, des interviews, des interventions de mes anciens collègues qui parfois m'envoient des textos, voilà, j'ai fait ça. Donc, on est resté, bien sûr, très proches. On a passé autant de temps ensemble. Je pense que c'est une très bonne radio qui diffuse de bonnes informations, de bonnes analyses, qui est un pont entre la France et la Roumanie, mais plus que ça, c'est aussi une fenêtre vers le monde.
RFI Roumania dispose d'émetteurs dans 6 villes à travers le pays, où elle est écoutée chaque semaine par près de 10% de la population et 80% des cadres et dirigeants, ce qui en fait une radio de référence en Roumanie où son savoir-faire est reconnu. Elle cherche toujours à accroître sa diffusion radiophonique et elle a su négocier le virage vers le numérique, ce dont se félicite Ina Dumitrache, directrice adjointe de la radio.
On a évolué dans ces 30 années à partir d'une petite radio avec 2-3 heures de programme en roumain vers un passage aussi numérique. On a bien développé nos sites et nos réseaux sociaux. En 2012, on était autour de 30 000 visites par mois sur notre site et maintenant on est arrivé à plus d'un million de visites chaque mois. On est bien présent maintenant sur le réseau. On fait des radios filmées. Et maintenant, la preuve, c'est qu'on fête virtuellement notre 3e anniversaire sur une plateforme éphémère.
C'était de Radio Delta à RFI Roumania, 30 ans d'une radio née avec la démocratie. À mes confrères roumains, je dis la Multiani, RFI Roumania. Bon anniversaire, RFI Roumanie.
Așadar pe 93,5 MHz, Radio Delta.
On approche de la fin de cette émission. C'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. On a parlé de la révolution roumaine en ouverture de cette émission. Elle succédait à un autre événement majeur en 1989, la chute du mur de Berlin. C'est justement un regard sur la capitale allemande que nous propose la blogueuse Manon Eugel. Elle connaît très bien la ville où elle a vécu pendant 9 ans.
En 2009, j'ai plaqué ma vie parisienne sur un coup de tête. Depuis toujours, je rêvais de vivre à Berlin, alors je l'ai fait. J'ai tout de suite été emportée par le tourbillon de cette ville pauvre mais sexy. J'ai vécu la fête berlinoise, les amitiés, la rencontre avec un grand amour, la rupture sanglante, des jobs pourris, les succès. J'ai monté une pièce de théâtre, j'ai pris des cours plus que bordéliques dans une école de cinéma autogérée, j'ai indiqué la direction du bus de Nefertiti dans les musées. Les premières années, avec un petit job à 800 euros et beaucoup d'heures libres devant moi pour créer, je vivais bien. J'étais heureuse. Berlin a une aura unique, celle des immeubles vides de la périphérie, des stèles austères et menaçantes du mémorial soviétique, des squats vacillants, dernier bastion de la résistance. Mon quartier, justement, c'était un quartier résistant. Un mélange d'artistes, de piliers de comptoir, d'artisans. Les enfants turcs jouaient avec les têtes blondes sur la grande place pendant que le buraliste jouait au ping-pong avec le fleuriste. Maintenant, il y a un café branché avec une terrasse moche à la place des mômes. Tout le monde a plié bagages. On a été sommés de dégager. Nous tous, les artistes de l'étranger, nous sommes venus habiter cette terre froide, ingrate et pourtant tellement attirante pour vivre une aventure créatrice, foisonnante et poétique, malgré la pauvreté. Mais cette existence n'est plus possible aujourd'hui. Les loyers et le coût de la vie ont explosé. Tout est devenu trop cher. Les lieux que j'aimais ont été remplacés par des cantines chics aseptisées, des coworking spaces, des cafés hipsters identiques à ceux de Melbourne ou de San Francisco. Je voulais pas vivre entourée de la bienveillance bobo. J'avais une allergie à ces gamins de start-up qui, avec leur fric et leurs idées hyper modernes, passaient le Berlin que j'aimais au bulldozer, leur café latte à la main. J'ai fini par quitter Berlin. Inconsolable. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix. Et chaque fois que j'y retourne, j'ai une certitude puissante. Berlin sera toujours ma maîtresse et ma mère. La ville où je suis devenue la femme et l'artiste que je suis aujourd'hui. Et puis vous savez quoi? L'esprit foncièrement rebelle de Berlin ne mourra jamais. Ça, j'en suis sûre. Et ça, personne ne peut me le prendre.
Mondoblog.org.
C'était la blogueuse Manon Eugel, parisienne à Berlin et européenne convaincue. Retrouvez ses billets sur son blog generationberlin.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission. Si vous avez raté le début à la radio, elle est disponible dès maintenant et en version longue en podcast. Abonnez-vous à l'Atelier des médias de RFI sur l'application de votre choix. Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox ou encore Deezer. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou par mail atelier@rfi.fr, je vous répondrai. Un grand merci comme chaque semaine à Simon Decreuse qui a réalisé cette émission et à Camille Deloche qui a supervisé Mondoblog Audio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.